l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Avec au sommaire ce soir la guerre au Proche-Orient, au moins 11 morts aujourd'hui au Liban, victimes des bombardements israéliens. Ce soir nous sommes auprès des soutiens du Hezbollah. On est avec la résistance, dit cette Béroutine que vous entendrez dans notre reportage à suivre. Ce scandale au Royaume-Uni qui touche l'église anglicane, il a célébré les funérailles d'Elisabeth II ou encore couronné Charles III. Le chef spirituel des anglicans, l'archevêque Justin Welby, démissionne. Nous vous expliquons pourquoi dans un instant. En Russie, critiquer la guerre peut coûter cher, très cher. Une médecin moscovite vient d'en faire les frais, condamnée à 5 ans et demi de prison. Anissa El Jabri nous attend à Moscou. Dans ce journal également, la question des réfugiés climatiques s'invite à la COP29. Emmanuel Macron en Amérique latine, le président français sera à partir de samedi en Argentine, puis au Brésil et au Chili. Et puis la politique en France, la question du budget du pays pour l'année prochaine part directement au Sénat. Cet après-midi, les députés ont rejeté le volet recettes du texte. Nous sommes à l'Assemblée nationale.
Et puis lui aussi est français, Stéphane Séjourné, l'ancien chef de la diplomatie française, eh bien, passait son grand oral aujourd'hui devant le Parlement européen, probable futur commissaire européen. Eh bien, pour évoquer cette audition, nous appellerons Giorgio Leali du Média Politico juste après ce grand journal dans 15 minutes sur RFI.
Plusieurs attaques mortelles en Israël, comme au Liban. Le Hezbollah déclare avoir lancé aujourd'hui des missiles sur une base aérienne du sud de Tel Aviv. Deux personnes ont été tuées dans le nord d'Israël. Par ailleurs, des frappes israéliennes ont fait au moins une dizaine de morts à l'est de Beyrouth et dans le sud du Liban. Nos envoyés spéciaux dans la capitale libanaise ont rencontré aujourd'hui des soutiens du Hezbollah, des soutiens du mouvement islamiste qui ne décolèrent pas. Reportage, Muriel Paradon, Julien Boileau.
Voilée de noir, keffiyeh sur les épaules, Mouna Abbas, 54 ans, s'est réfugiée dans le quartier de Hamra à Beyrouth. Elle vient de Dahiyeh, dans la banlieue sud. C'est un fief du Hezbollah, mouvement qu'elle soutient et qu'elle appelle la résistance.
Nous, on est avec la résistance. Qu'on perde nos enfants, nos maris. La terre nous appartient. L'important est qu'elle reste à nous et on reconstruira. On est avec la résistance jusqu'au bout.
Mahmoud Sahan, lui, vient d'un village du sud du Liban, frontalier avec Israël. Il raconte avoir tout perdu, sa maison, sa ferme. Il pense que le Hezbollah, bien qu'affaibli, peut remporter la guerre.
Le Hezbollah a les moyens. Si ce n'est pas le cas, Dieu est là. Comme le Hezbollah s'est battu en 2006, il refait la même chose aujourd'hui, même davantage. Il est capable d'atteindre Haïfa et Tel Aviv.
Ali Samra, 73 ans, lui aussi vient du sud du Liban, réfugié à Beyrouth. Il ne décolère pas contre les Israéliens.
Qu'est-ce qu'ils font, les Israéliens? Ils tuent des enfants, ils détruisent nos maisons, qu'on laisse nos enfants aller à l'école, d'accord? On veut vivre en paix. Mais les Israéliens et leur gouvernement, ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'il veut encore, Netanyahou?
Un conflit sans fin, regrette le vieil homme, qui a déjà connu plusieurs décennies de guerre au Liban. Muriel Paradon, Julien Boileau, Beyrouth, RFI.
Ainsi, le Hezbollah a dit aujourd'hui avoir tiré des missiles sur une base militaire aérienne au sud de Tel Aviv. Israël, de son côté, demande à la population de se mettre à l'abri. Des sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti aujourd'hui à Tel Aviv. L'armée israélienne indique avoir intercepté 3 projectiles. Par ailleurs, l'aéroport international de Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion, a été fermé.
Toujours au Proche-Orient, à Gaza cette fois, sous la pression des États-Unis, Israël autorise un nouveau point de passage.
Pour faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza, les barrières du point de passage de Kisoufim se sont levées aujourd'hui. Israël répond à une exigence de l'administration américaine. Les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Anthony Blinken, Lloyd Austin, avaient adressé dans une lettre datée du 13 octobre dernier, une série d'injonctions à Israël pour permettre l'augmentation de l'aide humanitaire. Israël avait 30 jours, à défaut de quoi les États-Unis menaçaient de suspendre une partie de leur assistance militaire à Israël. Aujourd'hui, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA et 8 autres organisations non gouvernementales ont estimé que l'aide humanitaire qui entre à Gaza est encore insuffisante.
Et puis ce nom fait polémique, Bezalel Smotrich ne viendra pas à Paris ce mercredi, et cela contrairement à ce qui était annoncé. C'est ce qu'indique le porte-parole du ministère israélien des Finances.
Bezalel Smotrich est une figure de l'extrême droite religieuse en Israël. Il est connu pour ses déclarations incendiaires et pour son soutien à la colonisation des territoires palestiniens occupés. Nicolas Falaise, dans le contexte de la guerre à Gaza, la Fédération internationale des droits humains, la FIDH, avait prévu de déposer une plainte devant la justice française.
Bezalel Smotrich était invité par une association franco-israélienne d'extrême droite, une réunion privée comme celle à laquelle il avait participé à Paris au printemps 2023 et durant laquelle il avait créé la polémique en déclarant « le peuple palestinien n'existe pas ». Depuis, le ministre israélien des Finances a tenu d'autres propos contestés, justifiant le fait d'affamer les Palestiniens de Gaza notamment. Ces dernières semaines, des organisations et partis politiques français avaient demandé en vain l'interdiction du rassemblement dont Bezalel Smotrich devait être l'invité vedette. La Fédération internationale des droits humains, de son côté, avait rédigé une plainte visant l'homme politique israélien pour complicité de crimes de torture, et ce au nom de la compétence universelle des tribunaux français. Clémence Bechtart est l'avocate de la FIDH.
On le sait, cette guerre, elle s'illustre par des violations massives du droit international humanitaire. Il est donc temps que les justices nationales qui pourraient être compétentes, dont la justice française s'empare de ces enquêtes, ouvrent des enquêtes judiciaires. Il est impensable, vu l'ampleur des exactions qui sont commises, que ces crimes restent impunis.
Pour que cette plainte soit déposée et recevable, il fallait que Bezalel Smotrich soit physiquement présent sur le territoire français. La FIDH estime que d'autres responsables israéliens pourraient faire l'objet de plaintes similaires à l'occasion de déplacements en France.
Nicolas Falaise, ce coup de tonnerre à présent au Royaume-Uni, Adrien, le chef de l'église anglicane Justin Welby qui démissionne.
C'est un visage familier des Britanniques. Il est très proche de la famille royale, mais depuis quelques jours, les appels à la démission de l'archevêque de Canterbury et primat de l'Église d'Angleterre se faisaient entendre. Justin Welby est accusé d'avoir couvert un scandale. Scandale qui a fait plus de 130 victimes, principalement des garçons mineurs, agressés physiquement et sexuellement par un avocat lié à cette institution religieuse. Alors pour en parler ce soir avec nous, Romain Lemaresquier du Service international. Romain, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors cette démission est plus que surprenante car dans de nombreux autres pays, des scandales similaires ont déjà été révélés et les responsables ne démissionnaient pas pour autant.
C'est vrai et c'est tout à l'honneur de Justin Welby, hein, même s'il était au courant de ce scandale depuis 2013, c'est-à-dire depuis 11 ans comme il l'a expliqué lui-même. En fait, la pression exercée ces derniers jours par de hauts responsables de cette église était telle qu'il n'avait pas le choix. Il y avait même une pétition qui circulait le week-end dernier pour demander sa démission. Une pétition qui ce matin avait recueilli 4000 signatures. Et puis il y a aussi l'image de l'église et peut-être que Justin Welby a pris en compte ce paramètre sachant que l'église anglicane compte pas moins de 85 millions de fidèles dans le monde.
Romain Lemaresquier, expliquez-nous ce qui a précipité cette démission.
Eh bien c'est suite à un documentaire diffusé en 2017 par la chaîne Channel 4 qui se basait sur un rapport sur cette affaire que le scandale a éclaté. Un rapport qui détaillait les agissements de John Smith, un avocat qui présidait une association caritative gérant des camps de vacances avec l'église anglicane. Cet homme a, entre 1970 et 2010, agressé plus de 130 garçons et jeunes hommes au Royaume-Uni, mais également en Afrique, notamment en Afrique du Sud où il s'était installé. John Smith est décédé en 2018 sans jamais avoir été inquiété. Pourtant, les faits étaient connus par le sommet de cette église depuis 2013. Le rapport conclut d'ailleurs que l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, aurait pu et dû signaler à la police les violences commises par l'avocat à partir de 2013. Des faits gravissimes qui ont obligé Justin Welby à quitter ses fonctions.
Justin Welby, Romain, est une personnalité bien connue des Britanniques.
Oui, c'est lui qui a notamment officié lors du couronnement de Charles III et de Camilla l'année dernière. Archevêque de Canterbury depuis 2013, primat de toute l'Angleterre, Justin Welby n'a pas été un homme d'église toute sa vie. Il a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie pétrolière, notamment pour Elf Aquitaine au début des années 80. Il a même été joueur professionnel de backgammon. C'est une personnalité appréciée par les Britanniques qui n'hésitait pas à aborder des questions politiques ou sociales. Alors cette démission est un véritable coup dur pour lui, mais elle doit permettre à l'église anglicane de procéder à un changement en profondeur, comme il l'a expliqué aujourd'hui, surtout que ce n'est pas le premier scandale qui touche cette institution religieuse.
Merci Romain Lemaresquier.
Deuxième jour de la COP29, Adrien Delgrange, et la question des réfugiés climatiques qui s'invitent.
Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, profite de cette réunion internationale pour publier aujourd'hui un nouveau rapport alarmant. Le changement climatique et ses conséquences sur les aléas météorologiques ont déjà forcé et forceront des millions d'hommes et de femmes à fuir leur foyer, prévient l'organisme des Nations Unies. De quoi faire réagir les différentes ONG et négociateurs présent à la COP29. À Bakou, notre envoyé spécial, Manon Chaplin.
120 millions de déplacés dans le monde, ce chiffre a fait réagir à la COP29 aujourd'hui. Et cela devrait continuer d'augmenter car d'ici 2040, le nombre de pays confrontés à un risque climatique extrême devrait passer de 3 à 65. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations.
Ce qui est vraiment alarmant, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de déplacés climatiques que de déplacés de guerre. Dans certains cas, on pourrait empêcher cela vraiment facilement. Par exemple, aux Philippines, il suffit de construire des logements résistants aux catastrophes climatiques pour que les communautés fragiles puissent rester chez elles, même en cas de typhon.
Pour s'adapter au dérèglement climatique, les États extrêmement fragiles ne reçoivent que 2 dollars par personne et par an contre 161 dollars pour les pays moins exposés. Un déséquilibre injustifié, déplore Evans Davinjewa, président du groupe de négociation des pays les moins avancés.
Nous sommes les pays les plus affectés par le changement climatique et pourtant, nous sommes ceux qui ont le moins contribué au problème. Nos calculs sont simples. Nous avons besoin d'au moins 1,2 milliards de dollars pour les 5 prochaines années et ce, rien que pour les 45 pays de notre groupe.
L'enjeu principal de cette COP29, c'est justement de se mettre d'accord sur un montant de financement climatique à destination des pays du Sud. Le précédent objectif, bien plus faible, 100 milliards de dollars, avait été atteint avec 2 ans de retard. Manon Chaplin, Bakou, RFI.
Retour à Paris, 19h12, dans la capitale française. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange. Adrien, on va évoquer la Russie à présent. En Russie, où il y a une intense répression à l'égard de tout propos critique de la guerre en Ukraine, arrestation, amende, peine de prison, tout cela pleut sur toute personne qui émet le moindre propos pouvant apparaître comme contraire à ceux du pouvoir.
Et les dénonciations, Romain, fleurissent avec une affaire emblématique. Elle combine les deux ingrédients, dénonciation, répression. Une pédiatre est accusée d'avoir tenu dans un cadre privé des propos contre la guerre en Ukraine. Cette médecin de la capitale russe a été condamnée cet après-midi à 5 ans et demi de prison ferme. Anissa El-Jabri nous appelle de Moscou.
La salle de ce tribunal banal de la capitale russe était pleine pour le verdict de l'affaire Nadiejda Bouyanova. Le public a été interdit pour son prononcé, mais elle annonce ensuite des 5 ans et demi fermes. Quelqu'un dans le public a crié « Honte à vous !» 3 personnes suspectées d'avoir tenu ce propos ont immédiatement été arrêtées. Nadiejda Bouyanova s'est retrouvée dans le collimateur des forces de sécurité le 31 janvier dernier, quand la compagne d'un soldat porté disparu au front en Ukraine l'a dénoncée. Cette mère d'un garçon de 7 ans soigné par la pédiatre l'a accusée de lui avoir dit lors d'une conversation privée que, je cite, « son mari disparu en Ukraine était une cible légitime pour les forces armées ukrainiennes » et que, je cite encore, « la Russie était un pays agresseur et attaquer les civils ukrainiens. Pour les avocats, ce sont les seuls éléments à charge dans le dossier. Petit bout de femme de 68 ans aux cheveux blancs coupés courts et habillée tout de noir, la pédiatre assise dans sa cage vitrée des accusés a elle eu ces mots. Chaque personne devrait avoir des convictions intérieures fortes. Chacun devrait faire preuve d'empathie pour l'autre. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Dans l'actualité européenne, les Allemands qui s'apprêtent à renouveler les élus de leur parlement, le Bundestag.
Le chancelier Olaf Scholz a perdu ses soutiens. La coalition, la réunion de plusieurs partis au pouvoir depuis 3 ans ne tient plus. Les différents partis ne sont plus d'accord, notamment sur la question économique de l'Allemagne. Une date est avancée pour que les Allemands aillent voter le 23 février prochain.
Et puis, c'est le grand sujet de l'actualité politique française. Le budget de la France sera désormais voté au Sénat.
Alors, comme attendu, Romain, la partie recette du budget a été très largement rejetée cet après-midi à l'Assemblée nationale française. 362 voix contre, 192 voix de la gauche. Pour, le texte soumis au vote était très largement remanié par la gauche. Raphaël Delvolvé, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
C'est tout simplement la première fois que ça se produit sous la Ve République.
Et beaucoup de Français l'apprennent ce soir. Ce rejet de la première partie du budget empêche l'examen de la seconde, le volet dépenses. Le texte part donc au Sénat dans sa version initiale, celle proposée par Michel Barnier. Vous savez, c'est 60 milliards d'euros d'économies pour arriver à un déficit de 5% du PIB l'an prochain. Le projet très largement modifié, pour ne pas dire totalement défiguré ici par les députés, notamment de gauche, mais aussi du Rassemblement National, a donc été rejeté. Il y avait beaucoup d'impôts sur les super profits, les super dividendes qui avaient été ajoutés, la fin de la contribution française à l'Union Européenne également. Il y avait, accrochez-vous, selon les estimations, jusqu'à 75 milliards d'euros de taxes nouvelles. Déception, voire colère ce soir dans les rangs du nouveau Front Populaire. Agacement palpable chez les macronistes qui en veulent, eux, aux socialistes de ne pas les avoir suivis, d'avoir préféré aller avec les insoumis vers toujours plus d'impôts. Chez les LR, eux aussi membres de la coalition pouvoir, des sourires ce soir, puisque, je vous le disais, le texte part maintenant au Sénat, où la droite et le centre sont majoritaires. Les sénateurs devraient logiquement aller dans le sens de Michel Barnier, le Premier ministre, qui sera de toute façon obligé de revenir un jour ou un autre devant l'Assemblée nationale, avec peut-être cette fois un 49-3 dans la main.
Les précisions de Raphaël Delvolvé en direct de l'Assemblée nationale française. Merci Raphaël. Et puis enfin, je vous le disais en titre, Emmanuel Macron sera en Argentine à la fin de la semaine. Visite officielle du président français à Buenos Aires, accueilli par le président argentin Javier Milei. L'Argentine, première étape d'une tournée qui lui conduira ensuite au Brésil, puis au Chili.
Et évidemment, il y aura également le sommet du G20. Vous l'avez évoqué, ce sera lundi et mardi prochain et ce sera à suivre sur RFI. C'était le grand journal du soir. Merci Adrien Delgrange.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Allez, le grand oral de Stéphane Séjourné s'est achevé il y a un peu plus d'une heure. L'ancien chef de la diplomatie française était auditionné devant le Parlement européen en tant que futur probable commissaire européen en charge d'un portefeuille clé, hein, le portefeuille de la stratégie industrielle. On appellera sur ce sujet le média Politico. Et puis direction l'Australie, où le gouvernement entame un virage historique. Il compte en effet réduire significativement le nombre d'étudiants étrangers qui entrent en Australie, alors que ces derniers sont au nombre d'un million dans les universités du pays. Donc c'est tout un secteur majeur de l'économie australienne qui est menacé. C'est ce que nous dira notre correspondant Grégory Pless. Mais pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Salou Diouf.
Bonsoir Romain.
Le football pour débuter, la Ligue des Nations de retour.
L'équipe de France reçoit Israël demain pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Nations. La France, deuxième au classement du groupe B, juste derrière l'Italie et devant la Belgique, devra l'emporter à la maison avant de se déplacer chez le leader italien lundi. Et dans les rangs des tricolores, il y a un petit nouveau, le joueur du LOSC, Lucas Chevalier. Le gardien de but de 23 ans restera sur le banc de touche, mais il raconte avec des étoiles dans les yeux comment il a pris sa convocation en bleu.
J'étais dans ma voiture et puis forcément les vibrations du téléphone ont fait que j'ai vite compris ce qui se passait. Ça fait rêver, forcément, c'est mon pays, c'est la nation. C'est assez épuisant aussi mentalement avec tous les messages qu'on a. On essaie de répondre à tout le monde, mais on doit aussi gérer aussi sa période de satisfaction, de se remettre les pieds sur terre, d'accepter le changement de vie. Mais voilà, je boude pas mon plaisir. J'ai travaillé pour en être là et j'ai un entourage assez sain et qui m'a permis de pouvoir surmonter ça avec de la joie, mais assez sereinement.
Coup d'envoi de la rencontre 20h45 et dans le même temps, toujours dans le groupe B, l'Italie se déplace en Belgique.
Toujours en foot, direction la Bretagne, c'est dans l'Est de la France car c'est désormais officiel, on connaît le successeur de Julien Stéphan.
Et c'est le retour d'un personnage atypique en France, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur du Stade Rennais, celui qui avait marqué les esprits avec ses tatouages fantasques et son caractère volcanique du côté de Marseille, débutera sur le banc dans 15 jours contre le LOSC à l'extérieur, le technicien argentin dithyrambique sur le niveau de la Ligue 1. Et ravi de retrouver un championnat qu'il a grandement apprécié.
J'aime énormément la Ligue 1, je la regarde beaucoup. Et après mon départ de Marseille, j'ai continué à la suivre parce que j'aime les équipes qui évoluent et la façon dont elles jouent les transitions. Être ici à Rennes, c'est un défi. Ce championnat est en évolution constante. Je pense que les meilleurs joueurs du monde et les pays qui les promeuvent le mieux sont la France et le Brésil. Il y a des joueurs qui émergent en permanence, des joueurs avec de la qualité et du potentiel.
Entonces, esa aparición de jugadores jóvenes con muchas capacidades.
Et Georges Sampaoli ne viendra pas seul puisqu'il sera accompagné de 3 adjoints.
Dans l'actualité sportive, salut Diouf, le tennis, les finales des Masters ATP.
Et il s'était illustré dans le mauvais sens du terme le week-end dernier. Daniil Medvedev s'est ressaisi aujourd'hui face à l'Argentin Alex de, face à l'Australien Alex de Minaur. Le Russe n'a pas cassé de raquette cette fois-ci. Il s'est imposé pour son deuxième match en 2-7, 6-2, 6-4.
Et puis la NBA, ça se passe aux États-Unis évidemment. C'est du basket et plusieurs affiches de la Coupe de la NBA qui vont se jouer cette nuit.
Et ce sont les phases de groupe de ce trophée. Les Pistons de Détroit reçoivent les Heat de Miami à minuit, temps universel. Une heure plus tard, c'est les Celtics de Boston qui joueront contre les Hawks d'Atlanta à domicile. Les Bucks de Milwaukee accueillent les Raptors de Toronto. Coup d'envoi, 2 heures, temps universel.
Et puis la Formule 1, le directeur des courses de la F1 qui quitte ses fonctions.
Nils Wittich a démissionné de la Fédération Internationale de l'Automobile. Depuis début 2022, c'était le début de son mandat. Après l'épilogue tumultueux du championnat du monde 2021 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, rappelez-vous, cette affaire avait fait du bruit. C'est Rui Marquez qui s'occupe de son poste aujourd'hui, puisqu'il s'occupait notamment dernièrement de la F2 et de la F3.
Eh bien merci, salut Diouf pour ce journal des sports. Il est 19h21 ici à Paris et à Bruxelles. Et c'est le grand titre de l'actualité européenne ce mardi, les poids lourds de la nouvelle commission qui ont été sur le grill, les 6 vice-présidents potentiels en effet auditionnés toute la journée devant le Parlement européen et parmi eux, eh bien, il y a un Français, ancien ministre des Affaires étrangères, c'est Stéphane Séjourné. Bonsoir Giorgio Leali.
Bonsoir.
Vous avez suivi le grand oral de Stéphane Séjourné pour le Média Politico, grand oral qui a pris fin il y a un peu plus d'une heure, qui a duré 3 bonnes heures. Pour camper le décor, un mot du portefeuille dont Stéphane Séjourné a hérité. Donc, c'est le portefeuille de la stratégie industrielle. En quoi est-ce qu'il est, on peut dire, plus crucial que jamais?
Oui, c'est un rôle important, au moins sur le papier, parce que Stéphane Séjourné n'est pas que commissaire européen, mais il est aussi vice-président exécutif en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça veut dire qu'il a un pouvoir sur d'autres commissaires, notamment ceux qui sont en charge du commerce international, en charge de la concurrence, et bien sûr, il est aussi en charge du marché unique. Donc voilà, il s'agit d'un portefeuille crucial, notamment quand il s'agit des investissements à faire pour faire en sorte que les entreprises européennes restent compétitives face aux concurrents chinois et américains.
Ouais, et crucial évidemment, particulièrement après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc vous avez, Giorgio Leali, pour Politico, suivi cette audition de Stéphane Séjourné. Quel est le projet qu'il propose?
Le projet qu'il propose est vraiment en cohérence, en continuité avec les positions françaises classiques. Donc on a un peu retrouvé sur le fond les mêmes idées, plus ou moins, de son prédécesseur Thierry Breton, mais un style très différent. Donc c'était plutôt une approche sobre, bas profil. Et s'agissant de la vision qui était proposée, il y a vraiment cette idée d'autonomie stratégique qui est portée aussi par le président de la République, qui était évoquée à plusieurs reprises. Donc voilà, l'idée de plus d'investissement, un peu comme suggéré par Mario Draghi dans son rapport, et aussi l'idée d'avoir une politique commerciale un peu plus offensive s'agissant de la Chine et des États-Unis, donc un recours un peu plus fort aux mesures de protection s'agissant du commerce international.
Est-ce qu'il a été question de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur? Parce que la France, dont est originaire évidemment Stéphane Séjourné, conteste cet accord, mais pas la Commission européenne. Donc comment est-ce qu'il s'est placé par rapport à ça? Est-ce que ça a été évoqué?
Bien sûr, le sujet du Mercosur a été évoqué comme à chaque fois, à n'importe quelle réunion européenne, ce sujet revient tout le temps. La position de Séjourné est celle du gouvernement français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rejet total des accords de commerce. Au contraire, il y a des accords qui sont défendus comme positifs, par exemple celui avec la Nouvelle-Zélande. Mais il y a un discours à part à faire pour l'accord Mercosur. Donc, c'était l'occasion pour Stéphane Séjourné d'affirmer à nouveau le fait qu'il est contraire à la conclusion de cet accord. Et c'est important de le dire à nouveau maintenant, parce que on entend justement qu'il y a une accélération dans les négociations et que le sommet des pays du Mercosur qui aura lieu en début décembre à Montevideo pourrait être potentiellement un moment où les négociations pourraient pas mal progresser et une signature pourrait avoir lieu en janvier.
Alors, c'est intéressant, ça renvoie aussi à ce sujet, ce bras de fer entre la France et l'Union européenne sur cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ça témoigne aussi d'une légitimité qui est mise en cause, je pense, on parle évidemment de Stéphane Séjourné, qui est accusé d'être un peu trop proche du président français Emmanuel Macron, dont il a été ministre évidemment, et de servir davantage les intérêts de l'Élysée que ceux de Bruxelles.
Oui, c'était un peu une question récurrente, comme vous pouvez l'imaginer, de la part notamment de députés, de eurodéputés de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Donc on a à plusieurs reprises mis en question le bilan du gouvernement Macron. On a souvent reproché à Stéphane Séjourné d'être responsable pour les problèmes de la politique industrielle du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc ses réponses n'étaient pas tellement focalisées là-dessus. Il a vraiment essayé plutôt de se concentrer sur le fond au niveau européen.
Eh bien, merci beaucoup, Giorgio Leali du Media Politico. Vous nous avez fait un retour sur l'audition du possible, probable futur commissaire européen, l'ancien chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, audition devant le Parlement européen. Stéphane Séjourné qui devrait donc hériter du portefeuille de la stratégie industrielle. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et direction à présent l'Australie, le pays qui est connu pour être celui qui accueille le plus d'étudiants étrangers au monde. Alors, ils sont près d'un million sur le territoire australien. Ça représente près de la moitié de la population estudiantine. Et cela constitue une source considérable de revenus pour les universités. Mais sur ce sujet, le gouvernement est en train d'effectuer ce qu'on peut appeler un virage historique. Il a décidé en effet de réduire drastiquement le nombre de ces étudiants étrangers qui entre en Australie, à un moment où les immigrés, au sens large, sont accusés d'accélérer la crise du logement dans le pays. Mais le problème, c'est que voilà un secteur majeur qui est en jeu, c'est le secteur de l'éducation tertiaire, qui pèse en Australie plus de 30 milliards d'euros. C'est un reportage à Sydney de Grégory Pless.
Vache à lait pour les uns, bouc émissaire pour les autres, les étudiants étrangers sont actuellement en Australie au cœur de toutes les discussions. Représentant à eux seuls la moitié de tous les immigrés arrivés en Australie en 2023, ils sont pointés du doigt par certains qui les estiment responsables de la forte tension sur le marché immobilier. Les loyers ont en effet augmenté de près de 10% en un an dans les grandes villes du pays. Mais pour le spécialiste de l'immigration Abdul Rizvi, le rôle joué par les étudiants étrangers dans cette crise est largement surévalué.
Les étudiants, en général, vivent dans des résidences étudiantes, près des universités, pas dans les banlieues pavillonnaires, où la tension est la plus forte sur le marché de la location. Donc oui, ils participent à la pression sur le marché immobilier, mais les accusations à leur encontre sont exagérées.
Toujours est-il que le gouvernement a décidé, il y a quelques mois, de plus que doubler le prix des visas étudiants et d'exiger désormais que ces derniers disposent d'au moins 18 000 euros sur leur compte en banque pour obtenir un titre de séjour. Il compte par ailleurs instaurer l'année prochaine des quotas et limiter à 270 000 le nombre de visas délivrés, soit une baisse de plus de 15% par rapport à 2023. Une catastrophe dont les conséquences se font déjà sentir d'après Luke Shilley, le président de Universities Australia, qui représente la filière.
Le gouvernement a déjà délivré 60 000 visas de moins au cours des 6 premiers mois de l'année, ce qui menace 1400 emplois dans le seul secteur universitaire. Et les quotas annoncés auront un impact sur d'autres emplois.
Plusieurs universités ont d'ores et déjà annoncé des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars et des centaines de suppressions de postes dans l'enseignement et la recherche. Par ailleurs, certains regrettent que le débat n'ait porté que sur l'immigration et pas sur l'éducation, alors qu'elle est quand même directement concernée. C'est le cas, par exemple, de Nico Lou, chef économiste du Menzies Research Center.
Dans certaines filières universitaires, il y a 70, 75, voire 80% d'étudiants étrangers, ce qui abaisse la qualité de l'éducation dispensée. Nous pensons que plutôt qu'un quota global, il faudrait fixer des limites par cursus, ce qui permettrait de régler les deux problèmes à la fois, celui de l'éducation et de l'immigration.
De nombreux témoignages de professeurs soulignent en effet que face à de nombreux étudiants étrangers ne maîtrisant pas toujours très bien l'anglais, ceux-ci ont tendance à simplifier leurs cours. Mais cette proposition d'établir des quotas par filière n'a pas été retenue par le gouvernement, qui compte faire voter sa loi au Parlement à la mi-novembre. Grégory Pless, Sydney, RFI.
et Paris, 19h29. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin d'un RFI Soir. Claude Battista était à la réalisation. J'en profite pour vous annoncer le prochain programme sur l'antenne de la Radio Mondiale. Afrique Soir, la première édition. Ce sera avec Victor Moria et ce sera dans une poignée de secondes. Donc, restez à l'écoute. Et puis, juste après, il y aura le journal de 19h, temps universel. Et puis, 19h10, temps universel. Ce sera notre session reportage avec Accent d'Europe qui se penchera ce soir sur le fléau de la pauvreté infantile. Restez à l'écoute.
Ce mardi sur RFI.
Comment rendre l'eau à la terre?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Comment repenser notre rapport à l'eau? Et si on s'inspirait du castor? Proposition partagée par le philosophe du vivant Baptiste Morisot et de nombreux écologues. Comment apprendre du castor à restaurer nos rivières et à entretenir un autre rapport à l'eau et à la vie qui en découle?
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.